la donation, ça se prépare. Le deuxième acte.
Niveau économique, psychologique ou autre, que je ne peux pas m'en tirer sans perdre tout ce que j'ai. Et le but de rester ensemble est d'éviter un coût qui est trop élevé au niveau économique, social, personnel et psychologique. Le point que je veux faire, c'est que si vous, quand vous pensez à votre engagement à la relation, vous pensez plutôt à votre dévouement, vous avez vraiment une bonne vision de votre couple et de votre mariage. Mais quand vous pensez à votre relation avec l'autre et vous ne pensez qu'aux contraintes qui sont là, il faut prêter attention. La vision que nous avons de notre mariage et de notre couple est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir vivre pendant des moments difficiles. En fait, on pourrait dire, ce n'est pas bien d'avoir des contraintes. Et ceci n'est pas vrai. Il y a de bonnes contraintes. Par exemple, il y a des contraintes qu'on peut dire, à cause de ma foi, je ne vais pas me divorcer et je vais faire tout ce qui est nécessaire pour que notre relation fonctionne. C'est une bonne contrainte. Je vais garder les promesses que j'ai faites. Je vais être fidèle à ma femme ou à mon mari. Je vais chercher le bien-être du partenaire. Je vais chercher le bien-être de mes enfants. Et donc, ces contraintes, cet engagement, peut être très positif dans une relation et peut souder un couple dévoué.
Je vais vous proposer maintenant la définition de trois couples, trois sortes de couples. Il y a trois sortes de couples. Premièrement, il y a un couple qui n'a pas d'engagement spirituel du tout, c'est-à-dire que ni le mari ni la femme sont engagés dans quelque chose de religieux, que ce soit chrétien ou autre. C'est un couple qui va vivre selon la mode, selon les remous de la société, avec les risques que nous avons vus précédemment. C'est un couple qui n'a pas d'engagement, ni l'un ni l'autre. La deuxième possibilité pour un couple, c'est qu'il y ait une personne qui soit engagée, qui soit chrétien, disons, et l'autre personne qui ne le soit pas, ou qui ait une croyance différente. Dans ce cas-là, il ne va pas y avoir de communion spirituelle. Et c'est ce point-là que j'aimerais voir avec vous maintenant. Il n'y aura pas de croyance commune. Chacun pense et agit selon ses propres critères. Chacun va penser et agir selon ce qu'il pense, lui, qui est bon. Et cela va amener, bien sûr, à des discords. Cela va amener, bien sûr, à des tensions. Cela va amener des critiques d'un conjoint vis-à-vis de l'autre, et vice-versa. Ce qui va se répercuter indéniablement par la suite s'il y a des enfants. Je prendrai l'exemple d'un conjoint qui est chrétien, de l'autre qui ne l'est pas. L'enfant, par exemple, le matin, va vouloir se lever pour aller, enfin, ne veut pas se lever pour aller au culte. Et par exemple, si c'est le mari qui est chrétien, dit, mais il faut te lever pour venir au culte. La femme n'est pas chrétienne, lui dit, mais laisse-le dormir, il n'a que ce jour pour se reposer. De toute façon, tu vas l'écouter là-bas, c'est toujours la même chose, ta mère va rester ici de te reposer, etc. Et c'est la base d'un conflit. Même s'il n'y a pas d'enfant, simplement dans le couple, il peut déjà y avoir des divergences. Le mari préférerait aller faire du ski, mais l'autre ne va pas vouloir parce qu'elle veut aller au culte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tensions. Je ne peux pas aller faire du ski à cause de toi et de ton église. Donc c'est la deuxième possibilité. C'est un est croyant et l'autre non. La troisième possibilité est un couple où les deux conjoints sont engagés chrétiennement. Donc il y a la même foi, la même référence, la même unité de couple, à la même direction dans leur vie. L'apôtre Paul nous dit ceci, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. » Il y a ici l'image d'un joug. Un joug est construit pour répartir une charge à tirer par deux animaux de manière identique. Alors on imagine qu'il y a deux bœufs qui tirent dans la même direction. C'est ce qu'on appelle ici une efficacité maximum, où les deux animaux vont tirer vers un but commun. Il y a, je dirais, une communion de traction. Les deux forces sont additionnées et amènent un résultat qui est concret et positif. On peut voir dans le deuxième cas que si un des bœufs tire à gauche, le deuxième tire à droite, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas avancer, ça va avancer très mal, et pour finir, c'est peut-être le plus fort qui va dévier dans sa propre direction. Ça veut dire qu'un va céder par rapport à l'autre. Un va faire des concessions et c'est le plus fort qui va dominer. Et pour finir avec ce genre de choses, si chacun des animaux tire vraiment dans sa direction, et bien l'attelage va se casser. Et c'est comme ça qu'on peut aboutir au divorce. Les chiffres suivants vont montrer le taux d'échec dans un mariage si l'un des conjoints n'est pas chrétien. Il y a le 17% seulement des non-croyants qui vont devenir des chrétiens par l'influence du conjoint qui, lui, est chrétien. Donc 17%, c'est pas beaucoup. Il y a 73% des mariages qui vont échouer si un conjoint n'est pas croyant. Donc là, c'est l'exemple du jour qui est tiré de chaque côté, qui finit par casser, par divorcer. Par contre, le 96% des mariages réussissent si les deux conjoints, sont des croyants engagés, c'est-à-dire qu'ils avancent dans une seule et même direction. Dans un couple, il faut avoir une communion spirituelle, c'est-à-dire une croyance identique. Donc c'est de là que vient le mot communion. Un couple chrétien marche vers un but commun. Et un couple chrétien est un couple qui prie ensemble. Un couple qui prie ensemble est un couple qui reste ensemble. Et c'est un couple qui va être uni et soudé. Alors, je veux parler pendant quelques minutes avec vous de quelques suggestions pratiques. Qu'est-ce qu'on fait dans une relation? Et spécialement, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer une relation? D'abord, on peut se poser la question, est-ce que des fois c'est trop tard pour travailler sur une relation? Et ce n'est jamais trop tard si on se rend compte qu'il y a un problème. Et des fois, cela est dur à faire. Mais on peut le faire. Ça m'a fait penser, l'autre jour, je lisais une histoire d'un veuf et une veuve qui sont sortis ensemble pendant 5 ans. Et puis finalement, le veuf, il a eu le courage de demander la main de cette femme au mariage. Et puis tout de suite, elle a dit oui. Bon, il est rentré chez lui, le matin, il s'est levé et puis il s'est posé la question, quelle était sa réponse? J'ai oublié sa réponse à ma question. Alors pendant une heure, il a réfléchi. Et puis finalement, il dit, bon, son visage, elle avait quand même un look assez bizarre. Je dois lui téléphoner, c'est la seule solution. Donc il téléphone, puis elle répond au téléphone. Et puis il dit, écoute, je suis très embarrassé et tout, mais je dois admettre... Hier soir, quand je t'ai demandé ta main en mariage, je ne me souviens pas de ta réponse. Et puis il a dit, oh, je suis tellement content que tu as téléphoné, parce que je me souviens d'avoir dit oui à quelqu'un, mais je ne savais pas à qui. Alors, il faut quand même que nous ayons la reconnaissance qu'on doit améliorer la situation et admettre qu'il y a des fois des problèmes. Et première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est que qu'on se rend compte que quand il y a des conflits dans une relation, quand il y a ces explosions de colère, quand quelque chose se passe, que peut-être le problème, ce n'est pas avec les sélections qui traînent quelque part. Peut-être il y a ce que nous pouvons appeler des mines. Et vous savez, s'il y a des mines, si on marche sur des mines, il y a seulement une petite partie qui est visible, mais ça fait exploser ou donner une réaction qui est très très grande. Et il y a des fois des mines dans une relation. Il y a par exemple, on va imaginer ceci. L'homme est à la maison, puis il regarde, puis il voit que sa femme a un compte en banque. Et son nom n'est pas dessus, c'est-à-dire son nom à lui n'est pas dessus, c'est seulement le nom de sa femme qui est dessus. Et puis lui ne savait pas. Donc elle rentre à la maison et il dit, et quel est le problème? Tu as un compte en banque et mon nom n'est pas dessus. Elle dit, mais écoute, il y a très très peu d'argent là-dedans, mais je voulais simplement avoir un compte à moi. Et on peut avoir une grande explosion de colère. Mais pourquoi? Bon, des fois, il y a des mines. Il y a un problème des fois de pouvoir. Si l'un des deux conjoints ne sont pas avoir un certain pouvoir dans la relation, quand il y a des conflits, il y aura une explosion. Parce que ce n'était pas moi qui ai pu décider, c'est toujours toi qui décides, tu ne prends jamais en considération ce que je pense. Il y a aussi des problèmes de compassion. Il y a des fois qu'on ne, se sent pas aimé dans une relation. Et donc, si l'autre oublie quelque chose, la fête des mères ou le jour de Saint-Valentin ou quelque chose, on peut avoir justement cette explosion de colère, c'est parce qu'on ne se sent pas aimé. Et en réalité, ça a très peu à voir avec les fleurs qu'on n'a pas reçues, ça a à voir avec autre chose. Il y a aussi des fois qu'il manque de la reconnaissance. Est-ce que mon partenaire m'apprécie? Est-ce que j'ai une grande valeur à ses yeux? Et c'est pour cela qu'une serviette sale, sur le sol, dans la salle de bain, ou la vaisselle sale qui est laissée quelque part qui traîne, peut donner place à des explosions de colère. C'est parce que l'autre ne se sent pas du tout apprécié. Il y a aussi des fois, si nous pensons que l'autre n'est pas engagé à la relation, on va vraiment compter tout ce qu'il fait, et on peut avoir marché sur cette mine-là. Et puis, il y a l'intégrité. Quand je me sens attaqué et mes motivations sont mises en question par l'autre, je vais exploser. C'est la mine sur laquelle quelqu'un peut marcher. L'autre pense qu'il peut lire mes pensées. Mais en réalité, nous ne pouvons pas connaître les pensées de l'autre. Donc mettre en question la motivation de l'autre est très très dangereux. Et puis finalement, il y a la mine de l'acceptation. Notre désir le plus profond, c'est d'être accepté par quelqu'un d'autre. Nous craignons tous le rejet de quelqu'un ou de l'autre. Et au plus profond de nous-mêmes, nous cherchons l'acceptation. Nous cherchons une famille. Nous cherchons un vrai chez nous. Donc, un rendez-vous manqué, un anniversaire oublié, des vêtements non rangés peuvent devenir des déclencheurs de mine. Des déclencheurs de conflits. Et comme suggestion pratique, n'oubliez pas que quand les problèmes arrivent et quand ces grandes bagarres arrivent dans une relation, si nous avons appris vraiment à communiquer, nous pouvons creuser autour de cette mine et voir quel est le vrai problème. Est-ce que l'autre se sent aimé? Est-ce que l'autre se sent apprécié? Est-ce que l'autre doute mon engagement? Deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est pas simplement de regarder quel est le vrai problème ou regarder les mines. C'est essayer de faire le plus possible d'expériences ensemble, de bonnes expériences. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais après chaque voyage chez nous ou chaque activité importante, ma femme fait un album avec des photos. Et pour ses 40 ans, elle en a fait. Pour le voyage que nous avons fait chez mes parents l'année passée, pour les enfants, notre couple maintenant n'est pas simplement un couple qui vit dans le présent, mais c'est un couple qui a pu collectionner des photos et avoir des photos de tous ces événements du passé, et nous avons maintenant une histoire qui est derrière nous. À cause de cela, il faut avoir une certaine créativité pour former créer de bonnes expériences dans la famille, dans le couple. Et la question que je peux vous poser ce soir, c'est si vous alliez faire un album de bonnes expériences, est-ce que votre album serait vide ou rempli? Si la réponse est vide, il faut utiliser votre créativité pour construire des événements joyeux pour votre partenaire.
Il faut faire le bien, bien sûr. Il y a quelque chose qu'il faut encore plus éviter de faire. Il ne faut pas faire le mal. Il ne faut jamais faire le mal. Il est plus important que toute chose de ne pas faire le mal. Vous avez déjà peut-être entendu qu'il faut 20 points positifs pour contredire un point négatif. Et malheureusement, ceci est vrai. Par exemple, amener des fleurs ne suffit pas forcément pour effacer, pour enlever les moqueries que l'on a dit peut-être à sa femme. Imaginez quelque chose de plus grave, une infidélité que vous avez faite à votre conjoint. Une infidélité peut être pardonnée en offrant des tas de cadeaux, en offrant des fleurs, en présentant des excuses, en faisant la vaisselle tous les jours. En faisant toutes ces choses qui sont bien, est-ce que ceci est suffisant pour faire oublier une infidélité? Rappelez-vous ceci, il vaut mieux de ne pas faire tomber le vase et de le casser que d'acheter la meilleure colle et de vouloir le réparer. Les cassures se verront toujours. Donc faire le bien, oui, il le faut. Mais ce qui est plus important, c'est de ne pas faire le mal. Il faut avoir conscience du danger que constitue l'indifférence. L'indifférence, c'est un mot qui est horrible. Si vous voyez que votre relation de couple s'atténue avec le temps, faites le nécessaire. Ne restez pas indifférent. L'indifférence est la pire des choses. Elle est pire même que la haine. La haine, au moins, c'est un sentiment. L'indifférence, c'est rien. L'indifférence, c'est vide. L'indifférence, c'est plat. Le néant, ça, c'est l'indifférence. Il n'y a plus rien du tout. L'indifférence vient d'une routine où rien ne change. Où il n'y a pas d'échange. Où il n'y a rien de nouveau. C'est toujours la même chose. Alors quand il y a de l'indifférence, eh bien, c'est peut-être difficile à dire ou c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais essayons de faire quelque chose de différent pour changer. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie de cet exposé. Dans la première, nous avons parlé du mariage et dans la deuxième, nous aimerions parler d'une famille heureuse. La définition de la famille est le lien de l'amour. Donc la famille, donc il est fondamental de relier l'un à l'autre. Donc le mariage avec la famille. Dieu avait dit en Genèse chapitre 2 verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc ça c'est le mariage. Mais le projet pour Dieu, de Dieu pour Adam et Ève, continue. Ça ne s'arrête pas au mariage. Il continue en disant, soyez féconds, multipliez-vous. Le fondement biblique de la famille réside dans ce verset. La famille, comme le mariage, fait partie de la volonté de Dieu. La société a gardé en partie cette notion première, qu'une famille est constituée d'un couple, donc d'un homme et d'une femme, et d'un ou plusieurs enfants. Alors quel est l'ingrédient indispensable pour une famille ? L'élément indispensable et primordial pour une famille heureuse, eh bien je vous dirais, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est le même que celui qui est pour un mariage heureux, c'est l'amour. L'amour est le fondement du mariage et le fondement de la famille. Oui, ce mobile, il est bien ce mobile. On voit l'homme, on voit la femme, on voit les enfants. Et pourtant il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui fait que tout ceci reste ensemble. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont ces petits fils, ces fils invisibles en nylon qu'on ne voit pas, mais qui pourtant existent, et qui, si ces fils n'étaient pas là, tout tomberait. Eh bien, ces fils invisibles, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour qui va tenir tout le système uni, c'est l'amour qui va tenir tout l'ensemble en équilibre. L'amour qui conduit un homme et une femme à fonder ensemble un foyer est un amour qui idéalement devrait grandir et qui devrait augmenter au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'enfants dans ce foyer. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous dit ceci. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Donc il faut aimer. cette notion de l'amour. Mais malheureusement, avec le temps, ce qui peut se passer, c'est que les fils de ce mobile, si on les laisse au soleil, ça va commencer à se fuser. Ça va commencer à se cuire, comme on dit. Ça va se fragiliser. Et tout d'un coup, ça peut casser. Et à ce moment-là, on voit que, simplement, si un des fils casse, tout le mobile est complètement déséquilibré. Alors, cet amour, ou ces fils, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les entretenir, il faut les consolider, il faut les renforcer pour avoir toujours ces liens d'amour qui sont constants et qui vont même grandissant.
Socrate a dit, si je pouvais monter la colline la plus élevée d'Athènes, j'élèverais ma voix, je proclamerais, mes concitoyens, pourquoi tournez-vous et frappez-vous chaque pierre pour amasser votre fortune et vous occupez-vous si peu de vos enfants à qui vous allez un jour tout laisser? Alors comment s'en occuper? Comment occuper de ses enfants? Il y a une manière de le faire qui c'est simplement montrer notre affection à l'autre. J'aime bien vous écouter, parler avec vos enfants. On a des fois des petits noms que nous donnons, par exemple ma princesse, ma fille, jeune homme, j'entends minime, toutes sortes de noms comme cela. Ce sont des noms qui montrent notre appréciation. Et puis, il y a aussi des fois que nous embrassons nos enfants, nous chatouillons nos enfants, nous allons leur donner des bisous. Et ce sont des manières de montrer notre affection pour les enfants. Il y a des manières très créatives aussi de la faire. Le jour de notre mariage, Stéphanie et moi avons reçu une assiette. Je ne sais pas si vous avez vu une assiette comme ça. On s'est mariés aux États-Unis, donc c'est en anglais. Il dit, vous êtes spécial aujourd'hui. Et c'est une assiette à utiliser pour toutes les occasions qu'on veut. Et nous pouvons prendre cette assiette et peut-être l'un des enfants a fait un 10 ou un 6 au travail écrit, aux travaux écrits, et on peut le mettre devant eux et on peut dire aujourd'hui on veut montrer notre appréciation. Il y a beaucoup de manières de montrer l'appréciation à nos enfants, mais c'est tellement important de ne pas négliger cela. Ne prenez pas notre assiette, hein? C'est important pour la famille. Il y a un artiste américain qui s'appelait Benjamin West. Il était connu comme le Raphaël américain en Europe. Et il a raconté qu'un jour, sa mère l'avait laissé avec sa petite sœur Sally. Et pour l'amuser, il a trouvé des bouquets d'encre de couleur. Et il a commencé à faire le portrait de sa sœur. Il a fait un peu de désordre avec de l'encre par-ci et par-là, mais quand sa mère est rentrée à la maison, elle n'a pas regardé l'encre partout. Mais elle a pris le portrait dans ses mains, elle a souri, et elle a dit, « Ah, c'est le portrait de Sally. » Et puis, elle a donné un bisou à son fils. Et plus tard, il a dit, « C'est ce baiser qui a créé un peintre. » Nous devons montrer de l'affection à nos enfants. Une famille heureuse est une famille où les membres expriment librement leur appréciation.
La gestion d'une famille va bien au-delà que de payer le logement, que de payer les impôts, les assurances, les habits et la nourriture. Mais bien des parents sacrifient le côté vraiment affectif de leur famille en ayant uniquement comme but de satisfaire aux besoins économiques du foyer. Edith Schaeffer, qui a écrit le livre « Qu'est-ce qu'une famille ?», dit ceci. Dans le processus de remplir tous les besoins économiques d'une famille, on détruit la famille elle-même et nos efforts sont une triste farce. C'est très bien de le faire, de gérer le côté économique, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire pour gérer une famille. L'important est d'être avec sa famille et y consacrer du temps. Par exemple, en travaillant et en jouant ensemble. Pour travailler, par exemple, on peut préparer une tarte. La maman avec la fille peut préparer une tarte ensemble. On peut jouer ensemble à des tas de jeux de société.
En étant simplement ensemble sans ne rien faire. C'est quelque chose qui, dans notre monde moderne, nous semble un peu inimaginable. Il faut toujours faire quelque chose, autrement on a l'impression de perdre son temps. Mais passer du temps ensemble, même à ne rien faire, mais être en famille, c'est quelque chose qui est très positif et très appréciable. Il faudrait éviter une fragmentation extrême de la famille. Quand j'ai dit extrême, ça veut dire ceci. Il ne faut pas que tout le monde soit dispersé et que plus personne ne se voit pendant la semaine. Par exemple, dans les activités de vie sociale, les activités locales, les exigences professionnelles, le sport, les cours, les hobbies divers nous tirent dans des directions différentes qui empêchent la famille de rester et d'être ensemble. Ça ne veut pas dire, bien sûr, par là qu'il ne faut pas faire de sport, qu'il ne faut rien faire. Je dis par là que si on va à l'extrême dans ces activités, c'est une famille qui ne fait que se croiser. Il y en a un qui part quand l'autre rentre et on ne se voit jamais. Et ceci n'est pas bon. Souvent, nous sommes trop occupés pour passer assez de temps avec notre conjoint, trop pris pour lire la Bible, pour prier ensemble, ou trop occupés pour dire « je t'aime ». Jouer ensemble. Moi, je vois avec mon fils, ce matin, nous avons fait ce qu'on appelle la bagarre. Et ça a fini un peu dans la mêlée générale, il faut que je fasse un peu attention parce qu'il commence à taper maintenant. Mais c'est quelque chose qui est très positif. Brady avant a dit qu'il aimait bien prendre, faire des chatouilles, donner des bisous. Et c'est une méthode tangible d'avoir du contact, même physique, avec ses enfants, de jouer, de les prendre, de les tripoter, comme ça. Et c'est quelque chose, c'est des liens qui sont très profonds et très puissants. Il y a des enfants qui sont très malheureux parce qu'ils n'ont jamais eu de contact physique avec leurs parents. Parce qu'on ne leur a jamais dit « je t'aime ». Donc il faut, une famille est heureuse, est une famille qui passe du temps ensemble et qui font des activités ensemble. Passer du temps ensemble signifie aussi que l'on est responsable de sa famille. Un foyer où règne l'amour et la confiance issue de la foi en Dieu, un foyer qui pratique la discipline de soi, est un foyer qui est responsable devant Dieu et devant les hommes. Si nous aimons notre famille, nous nous en sentons responsables et chaque membre de la famille se sent responsable envers les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand un enfant a quelque chose à faire, il va se sentir responsable s'il doit mettre la table. Il doit être responsable de mettre l'assiette, le couteau et la fourchette pour chacun des membres de la famille. Chacun a sa part de responsabilité dans une famille. Chacun a son rôle à jouer. Une famille solide aussi accorde du temps aux discussions familiales pour réfléchir aux problèmes qui se posent. Ils vont rechercher des moments où chacun va pouvoir s'exprimer, où chacun va pouvoir partager sa vie, ses intérêts, ses doutes. Toutes les familles ont des disputes, nous l'avons déjà dit plusieurs fois ce soir. Et c'est dans la façon d'aborder le problème que va résider la capacité à le résoudre. Donc c'est le type d'échange qui est très important. Ce ne sont pas les échanges en soi qui constituent la force de la famille, mais ce sont des échanges positifs, avec des expressions de l'appréciation de l'autre. Exemple, les enfants amènent des carnets scolaires à la maison. Et il y a des très bien, moyen, faible, très faible, nul. Alors qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on considère un carnet scolaire qu'il nous a ramené comme ceci? On imagine qu'il y a des croix un peu partout. La tendance, c'est toujours de regarder ce qui est mauvais. La tendance, c'est de regarder ce qui n'est pas bon et de critiquer ce qui n'est pas bon et ce qui est bon, et bien en général, on passe sous silence. Alors que le processus serait de faire l'inverse. C'est de regarder ce qui est bien et d'aborder le côté positif et d'après de voir pourquoi est-ce que ça a été moins bien et d'agir en conséquence. Le procédé est complètement différent. Ah, tu as une très bonne note en maths. Là, par contre, c'est moins bien. Pourquoi? On peut discuter de ce problème. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Mais dans beaucoup de cas, on regarde la mauvaise note, on met une punition et on ne regarde pas ce qui a été, le côté, tout le bien qui a été fait. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, dit l'apôtre Paul, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Communiquer pour une famille, c'est aussi de parler de Dieu. Je parle d'une famille chrétienne, bien sûr. Et la Bible nous dit encore ceci. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il faut parler de Dieu, une famille chrétienne doit parler de Dieu. Et ce passage nous montre qu'on doit enseigner les vérités chrétiennes à nos enfants. Il n'y a pas qu'un lieu ou qu'un moment qui permette la communication, mais toute occasion est bonne. La communication dans la famille est un sujet en soi qui pourrait bien sûr nous occuper pendant toute une soirée. À ce propos, je vous proposerais plutôt de regarder la bibliographie si certains livres vous intéressent. Il y a pas seulement des livres qui traitent de ce sujet. Par exemple, La communication, la clé d'un mariage réussi de M. White.
L'homme le plus sage du monde a écrit « Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Une famille heureuse est une famille en relation avec Dieu. Et malgré l'efficacité de nos écoles et nos professeurs qui enseignent nos enfants, c'est important d'avoir un lieu de filtre pour filtrer toutes les choses que nos enfants apprennent jour après jour. C'est à la maison que les enfants doivent apprendre à distinguer entre une bonne et une mauvaise nourriture spirituelle. Cela se fait toujours avec respect. Et ce n'est pas toujours l'anti-enseignement de corriger tout ce qu'ils ont reçu, mais aussi c'est un moment d'enseigner et d'enrichir la connaissance spirituelle des enfants. Et je vois trois choses que l'enfant va apprendre à la maison qu'il ne va pas apprendre ailleurs. Première chose, c'est qu'il va apprendre comment vivre sa propre vie, comment prendre soin de son corps, comment vivre avec tempérance. Il va apprendre la responsabilité sexuelle et comment soigner la douleur quand les gens sont malades à la maison. C'est là où il va apprendre l'importance du corps. Et puis, c'est à la maison aussi qu'il va comprendre comment traiter une personne. Parce que c'est à la maison que nous apprenons plus que tout autre endroit comment vivre avec les autres ou comment mal vivre avec les autres. Nous enseignons à nos enfants comment traiter les autres. Nous enseignons à nos enfants comment manque de pardon peut détruire l'autre et comment manque de respect peut faire du mal à l'autre. Nous apprenons vraiment à la maison comment pardonner et comment aimer quelqu'un qui n'est pas parfait. C'est à la maison que nous apprenons plus que tout autre endroit à aimer des gens qui sont vrais. On apprend à les aimer avec tous leurs défauts et tous leurs problèmes. Et c'est cette compassion et compréhension qui vient de l'autre, qui vient et qui nous aide à aimer l'autre. Finalement, c'est à la maison que nous apprenons comment craindre Dieu. Et craindre Dieu veut dire simplement que quand nous pensons à ce qui est important, nous pensons à ce qui compte. C'est seulement ce que Dieu pense de nous qui compte plus que toute autre chose. Une famille heureuse est une famille où les enfants apprennent que ce que c'est que le pardon, l'amour inconditionnel et la discipline. Comme le fils prodigue qui savait qu'il devait retourner à la maison pour retrouver sa vie perdue, nous sommes responsables d'enseigner à nos enfants où tourner pour trouver la vie. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Aussi, une famille heureuse, c'est une famille qui est engagée à chercher son propre bien-être. Et regardez autour de vous, regardez les familles qui sont heureuses, et vous verrez sans doute que les membres de ces familles ont fait des choix de chercher activement le bien-être de la famille. Certes, il y a des professions intéressantes et nous pouvons nous dévouer à des professions intéressantes. Mais une famille heureuse sera une famille où les gens, tous les membres de la famille, auront pris le choix d'un dévouement envers la famille. Un choix de construire un foyer où chacun se sent aimé à l'amour de l'argent, qui est vraiment la racine de tous les maux, de détruire notre engagement à chercher le bien-être de la famille. Nous allons voir quelques suggestions pratiques très vite. Tu vas nous parler de créer des traductions, n'est-ce pas?
C'est ça.
Créer des traditions. Ce sont des coutumes qui sont inventées par la famille, qui se pratiquent à des moments bien définis. Par exemple, on peut fêter des demi-anniversaires. On va servir alors un demi-gâteau, par exemple, et on va chanter que la moitié des paroles du joyeux anniversaire. C'est une tradition que l'on peut inventer pour sa famille. Nous, personnellement, chaque année, nous allons, le jour de Jeune Genevois, on n'est pas allé avant-hier parce qu'il pleuvait, au Bouvray pour visiter le Swiss Vapor Park. C'est un petit circuit de train miniature et les enfants aiment beaucoup ça. Et c'est la tradition maintenant, chaque jeune Genevois, d'y aller. Et qu'on ne va plus y aller, j'ai la recommandation des enfants d'y aller très prochainement. Chaque premier samedi du mois, nous pouvons décider d'aller à la piscine ou à la patinoire. Aller manger simplement une coupe de glace au Mövenpick. Demander aux enfants chaque soir avant d'aller au lit quel était le meilleur moment de la journée. Tout ceci va créer des traditions dans la famille. C'est quelque chose qui est important. Et en plus, je dirais ce qui est très bien dans la tradition, c'est que si par exemple on décide d'aller à la piscine, si on décide d'aller à la patinoire, il faut aller avec les enfants, il faut nager avec eux, il faut jouer avec eux, il faut patiner avec eux. Ça semble peut-être bête ce que je dis là. Mais vous savez, j'ai un ami dont la fille fait du patin artistique. Et il l'a amené à la patinoire. Et il l'a amené je ne sais pas combien de fois. Et jamais il n'a mis de patins pour patiner avec elle. Je trouve cela regrettable. Il y a tellement de bons moments à partager ensemble, avec la famille, avec les enfants, en faisant les mêmes choses, non pas seulement en les conduisant, mais en participant avec. Et ce sera par la suite des tellement bons souvenirs pour chacun.
Autre suggestion que j'ai, nous avons une tradition chaque année, le printemps. Nous allons tous les cinq chez Mövenpick et nous mangeons une tête à tête. Et le but, c'est de toujours arriver chez Mövenpick sans savoir, sans faire savoir aux enfants ce que nous allons faire. C'est un peu, ah, c'est Mövenpick, on va manger quelque chose. Mais quelqu'un dit, ça coûte 22 francs de Nantes pour manger une tête à tête ensemble. Et c'est pour cela que, autre suggestion pratique que j'ai, c'est de mettre dans votre budget le prix des souvenirs. Parce que ça coûte 22 francs 90. Mais nos enfants, chaque année, ils ont un souvenir d'un moment où on était tous ensemble autour d'une table, enfin, en train de se bagarrer pour les différentes boules de glace et éviter à manger le fruit qui était tout au fond de cette tête à tête. Il faut mettre dans le budget le prix des souvenirs. Et puis, une troisième chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez apprendre à perdre des heures pour les garder. Par exemple, il y a des fois qu'on dit, je n'ai pas le temps, on ne veut pas perdre le temps. Et donc, on va vite quelque part, on fait quelque chose vite et on revient. Et dans 6 mois, tout le monde a oublié ce qu'on a fait. On a vraiment perdu ces heures, même si on avait gagné quelques heures au niveau du temps. Par exemple, vous pouvez aller à la montagne, peut-être en visite à un ami, et au lieu de se garer tout près de leur chalet, pourquoi pas se garer 1 kilomètre plus loin et marcher un peu en regardant les fleurs, les insectes, peut-être même les animaux qui sont là. Vous perdez, c'est vrai, 30 minutes, mais vous allez gagner ces 30 minutes pour toute l'éternité. Nous avons parlé de beaucoup de choses, et c'était peut-être difficile pour vous sur ces chaises confortables à toute équité. Mais nous voulons finir justement avec cette image avec laquelle nous avons commencé. C'est l'image du mobile. Ah, Stéphanie, ma femme, a fait à la maison un mobile en argile avec des oiseaux. Et quand le vent vient, ça fait le bruit avec ting 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 avec les oiseaux qui sont ensemble. Très très beau. Et un jour, on était là en train de regarder ce qui s'est passé. Le vent est venu et tout est tombé par terre. Tous les petits oiseaux, chacun s'est cassé. Et puis, on a commencé à regarder les fils, et vous savez, il n'y avait aucun fil qui était cassé. Tous les fils ont tenu le coup. Le problème, c'est qu'on avait mal attaché les fils et tout s'est cassé. Vous pouvez vivre votre vie avec de l'amour dans votre famille, mais il faut attacher cet amour à quelque chose de fiable. Et nous croyons, ce qu'il faut faire, c'est attacher cet amour et la famille fortement à Dieu. Parce que comme François a dit, les tempêtes vont venir, les difficultés vont venir. Mais si notre maison, notre famille est fondée sur Dieu, la famille va rester jusqu'à l'éternité. Je me souviens quand j'étais au collège, dans le chœur, on avait un grand chœur de 140 personnes. Il y avait un noir de 70 ans qui est venu, il était compositeur. Et il écrivait spirituels, les livres spirituels. Et il y en a un qui s'appelle « Je veux que Jésus marche avec moi ». Je pense que vous avez entendu. Ouais. Puis lui, il avait fait toute une composition là-dessus. Et puis on chantait. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté. Il dit « Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce chant. » Quand j'ai écrit cela, je pensais à une chose. Je pense à une femme qui a été vendue. Et elle sera séparée pendant toute sa vie de sa famille parce qu'elle n'était pas vendue avec son mari et ses enfants. Et maintenant, elle est enchaînée à sept hommes. Et elle est en train de marcher. Et elle est en train de marcher avec ses hommes et elle quitte sa famille. Et elle pense dans sa tête, « Je suis loin de ma famille et je veux que Jésus marche avec moi. » L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, je vais parler très franchement, l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'esclavage qui détruit les familles d'aujourd'hui. Nous avons fait ce que l'esclavage a fait il y a 150 ans aux États-Unis, mais par choix. Ce n'est pas l'esclavage qui maintenant brise les familles, c'est plutôt notre égoïsme et notre abandon de Dieu. Et donc, j'espère que ce soir, vous avez entendu des choses qui vont vous encourager à voir à quoi vous allez attacher les liens d'amour que vous avez dans votre famille. Je vous remercie beaucoup de votre attention ce soir. Je prie que c'était une bénédiction pour vous. Et si vous avez des questions, si vous voulez aussi regarder les livres, tous nos visiteurs sont encouragés à prendre le livre orange qui est là. Donc ne quittez pas sans ce livre qui parle de la famille. Merci de votre présence ce soir. Merci.